Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Journal du Dr Seward. 22 septembre. Tout est donc fini. Arthur est reparti pour Ring et il a emmené Quincy Morris avec lui. Quel admirable garçon, ce Quincy. Très sincèrement, je crois qu'il a souffert de la mort de Lucy autant que n'importe lequel d'entre nous. Mais il a su garder son sang-froid avec un courage de viking. Si l'Amérique continue à produire des hommes semblables à celui-ci, elle deviendra assurément une puissance dans le monde. Quant à Van Helsing, il se repose avant d'entreprendre son voyage de retour. Il doit rentrer à Amsterdam, où il veut s'occuper personnellement de certaines choses. Il compte pourtant revenir ici demain soir, et restera ici s'il le peut, ici car il a précisément affaire à Londres, à un travail qui peut lui prendre un certain temps. Je crains, je l'avoue, que l'épreuve à laquelle il vient d'être soumis n'ait affaibli sa résistance, pour tant de faire. Pendant les funérailles, je remarquai qu'il s'imposait une contrainte peu ordinaire. Quand tout fut fini, nous nous retrouvâmes à côté d'Arthur, qui parlait avec émotion du sang qu'il avait donné pour Lucie. Je vis Van Helsing pâlir et rougir tour à tour. Arthur disait que, depuis lors, il avait le sentiment d'avoir été réellement marié à Lucie, qu'elle était sa femme devant Dieu. Bien entendu, aucun de nous ne fit allusion aux autres transfusions de sang, et jamais nous n'en dirons mot. Arthur et Quincy s'en allèrent ensemble vers la gare. Van Helsing et moi revînmes ici. À peine étions-nous montés en voiture que le professeur fut pris d'une crise de nerfs. Par après, il l'a fortement nié, me disant que c'était tout simplement son sens de l'humour qui se manifestait de la sorte, en ces pénibles, en ces terribles circonstances. Il commença par rire, rire aux larmes, si bien que je dus baisser les stores de la voiture afin que personne ne le vît dans cet état. Puis il pleura réellement, puis se remit à rire, enfin rit et pleura tout ensemble, comme une femme. Et comme l'on agit envers une femme, je voulus lui faire entendre raison, lui parler avec quelque sévérité. En vain. Dans une situation semblable, les femmes ont des réactions différentes de celles des hommes. Quand enfin son visage reprit son expression grave et sérieuse, je lui demandai ce qui, chez lui, avait pu provoquer une telle gaieté en un tel moment. Sa réponse, tout à la fois logique et sibylline, lui ressemblait bien. « Ah, John, mon ami, vous ne me comprenez pas. Ne pensez pas que je ne suis pas triste parce que je ris. Je pleurais alors même que j'étouffais à force de rire. Mais n'allez pas croire non plus que j'éprouve seulement de la tristesse quand je pleure. N'oubliez jamais que le rire qui frappe à votre porte et qui demande « puis-je entrer ?» n'est pas le rire véritable. Non, c'est un roi, et il vient chez vous quand ça lui plaît, et comme ça lui plaît. Il n'en demande la permission à personne. Seul son bon plaisir importe. Tenez, par exemple, je me suis tourmenté nuit et jour à propos de cette douce jeune fille. Bien que vieux et fatigué, j'ai donné mon sang pour essayer de la sauver. J'ai donné mon temps, ma science, mon sommeil. J'ai abandonné mes autres malades pour me consacrer entièrement à elle. Et pourtant, pour un peu, j'aurais éclaté de rire sur sa tombe, et je ris encore quand le bruit de la première pelletée de terre que le fossoyeur a jetée sur sa tombe retentit dans mon cœur, au point que le sang me vient aux joues. Ce n'est pas tout. Mon cœur saigne quand je pense à ce pauvre garçon, à ce cher garçon. Mon fils aurait exactement son âge, si j'avais eu le bonheur de le garder. Et par les yeux, par les cheveux, ils se ressemblent. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas, pourquoi je l'aime tant? Et malgré cela, quand il nous parle de certains de ces sentiments qui font vibrer mon cœur d'époux et font naître dans mon cœur paternel une attirance que je n'ai jamais éprouvée pour aucun de mes élèves, non, pas même vous, mon cher John, car tout ce que nous avons déjà fait et vécu en commun nous a mis sur un pied d'égalité plutôt que dans une relation de père à fils. Malgré cela, et même alors, Sa Majesté le Rire vient à moi et me crie dans l'oreille. « Me voilà, me voilà !» si bien qu'un afflux de sang me met aux joues une rougeur de soleil. Oh, mon ami John, quel étrange monde que le nôtre. Un monde bien triste, plein de soucis, de misère, de malheur. Et pourtant, quand arrive le rire, tout se met à danser sur l'air qu'il plaît à sa majesté de jouer. Les cœurs qui saignent, et les ossements dans les cimetières, et les larmes qui brûlent les joues, oui, tout cela danse ensemble au son de la musique qu'il émet, de sa bouche où le moindre sourire ne se dessine jamais. Croyez-moi, mon ami, nous devons lui en savoir gré. Car nous, les hommes et les femmes, on pourrait nous comparer à des cordes que l'on tire de côté et d'autre. Mais alors viennent les larmes, et, semblables à l'effet de la pluie sur les cordes, elles nous raidissent, peut-être jusqu'à ce que la tension devienne vraiment insoutenable, et alors nous cassons. À ce moment, le rire arrive comme un rayon de soleil, et il détend la corde. Ainsi, nous parvenons à poursuivre notre travail, quel qu'il soit. Je ne voulus pas le blesser en lui avouant que je ne saisissais pas très bien son idée. Toutefois, comme malgré son explication, je ne comprenais pas encore la cause de son rire, je lui dis franchement. « Oh, fit-il, voilà justement l'ironie la plus lugubre. Cette charmante jeune fille, étendue parmi les fleurs, et paraissant aussi belle que la vie elle-même, au point que, l'un après l'autre, nous nous sommes demandé si elle était réellement morte. Elle repose maintenant dans son tombeau de marbre, dans ce cimetière à l'écart, où reposent aussi tant des siens, et sa mère qui l'aimait tendrement, et qu'elle aimait tendrement, et ce glas qui sonnait, oh, si lentement, si tristement, et tous ces prêtres avec leurs vêtements blancs qui ressemblaient à des anges, et qui feignaient de lire dans leurs livres alors que leurs yeux, à aucun instant, ne suivaient le texte. Et nous tous, la tête courbée. Et tout cela, pourquoi ? Elle est morte, n'est-ce pas ? Mais, professeur, fis-je, je ne vois pas bien ce qu'il y a là-dedans de risible. Vos explications sont pour moi de plus en plus embarrassantes. Et même si le service funèbre avait quelque chose de comique, est-ce que le pauvre Arthur, souffrant comme il souffre ? Justement, n'a-t-il pas dit que le sang qu'il avait donné à Lucie avait fait d'elle sa femme ? Si, et cette idée, visiblement, le réconfortait. Très vrai. Mais ici, mon ami, surgit une petite difficulté. Car s'il en était ainsi, si, à cause de la transfusion de sang, il avait l'impression que Lucie était réellement devenue sa femme, n'en irait-il pas de même pour nous ? Oh, Lucie, la charmante Lucie, aurait donc eu plusieurs maris. Et moi qui ai perdu ma pauvre femme, laquelle est pourtant vivante selon l'Église, moi, époux fidèle à cette femme qui n'est plus sur terre, je serai bigame. Encore une fois, je ne vois point qu'il y ait là sujet de plaisanterie, déclarai-je. Et au vrai, ces remarques ne me plaisaient guère. Posant sa main sur mon bras, il reprit. Mon ami John, pardonnez-moi si je vous fais de la peine. Je n'ai pas fait part de mes sentiments aux autres, cela aurait pu les blesser. Mais à vous, mon vieil ami, je me confie sans crainte. Si vous aviez pu voir ce qui se passait au fond de mon cœur au moment où je désirais rire, au moment aussi où le rire est arrivé. Et si vous pouviez voir ce qui s'y passe maintenant encore que Sa Majesté le Rire a enlevé sa couronne et plié bagage, car il s'en va, très loin de moi, et pour très très longtemps, alors peut-être, de nous tous, ce serait moi que vous plaindriez le plus. Pourquoi ? Demandai-je, fort ému à présent par le ton sur lequel il avait prononcé ces dernières paroles. Parce que je sais. Maintenant, nous sommes tous séparés, et la solitude va être notre lot à chacun, la solitude qui planera sur nos toits. Lucie repose donc dans le tombeau de sa famille, un tombeau seigneurial, au milieu de ce cimetière où les bruits de Londres n'arrivent pas, où l'air est pur, où le soleil se lève sur Hampstead Hill, et où poussent les fleurs sauvages. De sorte que je peux terminer ce journal, et Dieu seul sait si j'en commencerai jamais un autre. Si je le fais, ou même si je reprends celui-ci, en tout cas, ce sera pour parler d'autres personnes et m'occuper de sujets différents. Maintenant qu'a raconté l'histoire de ma vie amoureuse, et avant que je retourne à ma vie de travail, je prononce tristement, sans être animé d'aucun espoir, le mot « fin ». Thank you. La Gazette de Westminster, 25 septembre. Un mystère à Hampstead. Les environs de Hampstead connaissent en ce moment des événements qui rappellent ceux dont notre journal a naguère parlé en des articles intitulés « L'horreur de Kensington » ou « La femme poignardée » ou encore « La dame en noir ». En effet, depuis 2 ou 3 jours, on a signalé le cas de jeunes enfants disparus du foyer paternel ou qui n'y sont pas rentrés après être allés jouer sur la lande. Chaque fois, il s'agissait d'enfants trop jeunes pour qu'ils puissent fournir des explications satisfaisantes, mais tous ont donné comme excuse qu'ils avaient accompagné la dame en sang. Et chaque fois aussi, c'est fort tard le soir que l'on s'est aperçu de leur disparition. En ce qui concerne 2 de ces enfants, on ne les a retrouvés qu'aux premières heures du lendemain. On suppose que le premier des enfants disparus ayant raconté ensuite que la dame en sang lui avait demandé de faire une promenade avec elle, les autres se sont tout simplement contentés de dire la même chose. Car on sait que les enfants d'aujourd'hui n'aiment rien tant que de s'emprunter des ruses les uns aux autres. Un correspondant nous écrit que de voir certains de ces bambins imiter tant bien que mal la dame en sang est un spectacle des plus drôles. Certains de nos caricaturistes, ajoute-t-il, pourraient assurément apprendre beaucoup à regarder ces imitations grotesques. Toutefois, l'affaire n'est pas sans poser un problème très sérieux, puisque 2 de ces enfants, ceux-là même qui ne sont pas revenus de toute la nuit, ont été légèrement mordus à la gorge. Il semble qu'il s'agisse de morsures faites par un rat ou par un petit chien, et bien qu'aucune de ces blessures ne soit grave, elle donnerait la preuve que rat ou chien, l'animal procède selon une méthode qui ne varie jamais. La police a reçu des ordres afin d'observer tout enfant, surtout s'il est très jeune, qu'elle apercevrait sur la lande d'Hampstead ou dans les environs, comme aussi tout chien égaré qui pourrait errer de ce côté. La Gazette de Westminster, 25 septembre. Édition spéciale. L'horreur de Hampstead. Une nouvelle victime. Nous apprenons à l'instant qu'un autre enfant, disparu hier soir, vient seulement d'être retrouvé ce matin, assez tard, sous un buisson d'ajoncs de Shooter's Hill, qui fait partie de la lande d'Hampstead, mais qui est peut-être moins fréquenté que les autres endroits de la lande. L'enfant porte la même petite blessure à la gorge qu'avaient les premières innocentes victimes. Il était blême et dans un grand état de faiblesse quand on l'a découvert. Lui aussi, dès qu'il fut un peu revenu à lui et a pu parler, a dit qu'il avait été entraîné par la dame en sang. Chapitre 14. Journal de Mina Harker. 23 septembre. Après une nuit assez mauvaise, Jonathan va cependant mieux aujourd'hui. Je suis bien aise qu'il ait beaucoup de travail, car cela l'empêche de penser sans cesse à ces choses terribles. Oh, je me réjouis vraiment de le voir aborder ses nouvelles responsabilités, car je sais qu'il s'en montrera digne, capable de les assumer, quelles qu'elles soient. Il s'est absenté pour toute la journée et m'a dit qu'il ne rentrerait pas pour le lunch. Mes petits travaux de ménage sont faits, de sorte que je vais m'enfermer dans ma chambre pour lire ce journal qu'il a écrit durant son séjour en Transylvanie. Septembre. Hier soir, il me fut impossible d'écrire une ligne, bouleversée que j'étais par ce récit incroyable. Pauvre chéri, que tout cela soit vrai ou seulement imaginaire, en tout cas, il a dû beaucoup souffrir. Je me le demande, y a-t-il là-dedans une part de vérité? A-t-il décrit toutes ses horreurs après avoir eu sa fièvre cérébrale, ou bien est-ce que celle-ci a été causée par ses horreurs mêmes? Je crois que je ne le saurai jamais, puisque je n'oserai jamais sans doute lui en parler. Et pourtant, cet homme que nous avons vu hier, Jonathan semblait être certain de le reconnaître, le pauvre garçon. Sans doute était-ce l'enterrement de notre grand ami qui l'avait ému et troublé au point de lui remettre à l'esprit ses pensées aussi bizarres que lugubres. Lui-même y croit réellement. Je me souviens de ce qu'il m'a dit le jour de notre mariage. À moins que quelque grave devoir ne m'oblige à y revenir, endormi ou éveillé, fou ou sain d'esprit. Ce comte redoutable formait donc le projet de venir à Londres. S'il est en effet venu à Londres avec ses nombreux millions, eh bien oui, un très grave devoir va nous incomber, et pour rien au monde, nous ne devrons reculer devant cette tâche à accomplir. Je vais dès maintenant m'y préparer. Je vais transcrire ce journal de mon mari à la machine à écrire, de sorte que, s'il le faut, nous le ferons lire à d'autres personnes, s'il le faut absolument. Mais dans ce cas, de nouvelles souffrances seront épargnées à Jonathan, car c'est moi qui expliquerai toute l'affaire, afin qu'il n'ait pas, lui, à s'en préoccuper. D'ailleurs, s'il se remet complètement, peut-être désirera-t-il lui-même m'en parler. Je pourrai alors lui poser de nombreuses questions, découvrir tout ce qui s'est passé, et une fois au courant de la vérité, le réconforter de mon mieux. Lettre de Van Helsing à Madame G. Harker. Confidentiel. 24 septembre. Chère Madame, je vous prie de bien vouloir me pardonner si je prends la liberté de vous écrire. Mais je suis déjà un peu votre amie puisque c'est moi qui ai eu le pénible devoir de vous annoncer la mort de Mademoiselle Lucy Westenra. Avec l'aimable permission de Lord Godalming, j'ai lu tous les papiers, toute la correspondance de Mademoiselle Lucy, car je m'occupe de certaines affaires la concernant et qui sont de première importance. J'ai trouvé notamment certaines lettres que vous lui aviez écrites, lettres qui témoignent de la grande amitié que vous aviez l'une pour l'autre. Oh, Madame Mina, au nom de cette amitié, je vous en supplie, aidez-moi. C'est pour le bien des autres que je vous le demande, pour réparer le mal qu'on leur a fait, pour mettre fin à des malheurs plus terribles sans doute que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Voudriez-vous me permettre de vous rencontrer? Vous pouvez avoir confiance en moi. Je suis l'ami du docteur John Seward et l'ami de Lord Godalming, vous savez, le Arthur de Mademoiselle Lucy. Mais, pour le moment du moins, je ne veux pas les mettre au courant de ce que je vous demande. Je viendrai vous faire visite à Exeter aussitôt que vous me le direz, au jour et à l'heure qui vous conviendront. J'espère que vous me pardonnerez, madame. J'ai lu vos lettres à la pauvre Lucy, et je sais combien vous êtes bonne, et aussi combien votre mari a souffert. Je vous demanderai donc encore, si cela se peut, de le laisser dans l'ignorance de tout ceci, de peur que les choses dont j'ai à vous parler ne nuisent à sa santé. À nouveau, je vous prie de m'excuser, de me pardonner. Van Helsing. Télégramme de Madame Harker au docteur Van Helsing. 25 septembre. Venez aujourd'hui même par le train de 10h15, si cela vous est possible. Je suis chez moi toute la journée. Wilhelmina Harker. Journal de Mina Harker, 25 septembre. Je ne puis m'empêcher de me sentir fort excitée maintenant qu'approche l'heure de la visite du docteur Van Helsing, car je ne sais trop pourquoi, j'espère que cela jettera pour moi quelques lumières sur la triste épreuve qu'a subie Jonathan. D'autre part, comme ce médecin a soigné Lucie dans les derniers temps de sa maladie, il me dira sans doute tout ce qu'il sait à ce sujet. Du reste, c'est bien de Lucie et de ses accès de somnambulisme qu'il désire me parler, et non de Jonathan. Il faut que je m'y résigne. Je ne saurai jamais la vérité sur ce voyage. Mais que je suis stupide. Voilà que le journal de Jonathan s'empare de mon imagination et l'influence au point que je ne peux plus dissocier ce récit du moindre incident de mon existence. Évidemment, c'est de Lucie qu'il vient me parler. Elle avait eu ses nouvelles crises de somnambulisme, et cette escapade sur la falaise, quel souvenir affreux, a dû la rendre bien malade. De fait, tout occupée de mes propres soucis, j'avais oublié qu'elle nous donnait alors beaucoup d'inquiétude. Sans doute a-t-elle raconté elle-même au docteur Van Helsing son aventure sur la falaise, et lui a-t-elle dit que c'est moi qui étais allée l'y rechercher. Et maintenant, assurément, il désire en apprendre de moi tous les détails afin de compléter sa documentation. J'espère que j'ai eu raison de ne pas parler de cette terrible nuit à Madame Westenra. Je ne me pardonnerai jamais si à cause de cela, l'état de Lucie avait empiré. Et j'espère aussi que le docteur Van Helsing ne m'en voudra pas. J'ai eu ces derniers temps tant de chagrin et d'inquiétude que je sens qu'il me serait impossible d'en supporter davantage. Sans doute les larmes font-elles du bien parfois. Sans doute rafraîchissent-elles l'atmosphère comme le fait la pluie. Est-ce la lecture de ce journal hier qui m'a émue à ce point? Et puis Jonathan m'a quitté ce matin pour ne rentrer que demain. C'est la première fois depuis notre mariage que nous serons séparés aussi longtemps. J'espère qu'il sera prudent, que rien ne viendra le troubler. 2 heures viennent de sonner, le docteur sera bientôt ici. Je ne lui parlerai pas du journal de Jonathan, à moins qu'il ne désire le voir. Quant à mon propre journal, je suis bien aise de l'avoir recopié à la machine. Je pourrai le lui donner à lire s'il veut connaître les détails au sujet de Lucie. Cela nous évitera, à lui des questions pénibles, à moi des explications plus pénibles encore. Un peu plus tard, il est venu et reparti. Quel entretien! La tête me tourne encore. J'ai l'impression d'avoir rêvé. Se peut-il que tout cela soit possible, ou même seulement une partie de tout cela? Si je ne venais pas de lire le journal de Jonathan, jamais je n'aurais cru un mot de cette histoire. Pauvre, pauvre Jonathan. Il a dû souffrir, je m'en rends compte maintenant, au-delà de toute expression. Dieu veuille que ce que je viens d'apprendre ne soit pas pour lui un nouveau calvaire. J'essaierai de lui taire les révélations que m'a faites le docteur Van Helsing. D'autre part, ne serait-ce pas pour lui une consolation, une aide en quelque sorte, même si les circonstances devaient en être difficiles, d'avoir enfin la certitude que ni ses yeux, ni ses oreilles, ni son imagination ne l'ont trompé, que tout peut s'être réellement passé comme il le croit. Il se peut que ce soit le doute qui lui fasse tant de mal, que le doute, une fois dissipé, et la vérité prouvée, peu importe par quel moyen il se sente rassuré, et soit plus capable de supporter ce choc. Le docteur Van Helsing doit être un homme très bon, autant qu'un médecin remarquable, puisqu'il est l'ami d'Arthur et du docteur Seward, et que ceux-ci l'ont fait venir de Hollande pour soigner Lucie. Du reste, rien qu'à le voir, j'ai compris sa généreuse nature. Quand il reviendra demain, sûrement, je lui parlerai de Jonathan et de sa terrible expérience. Et plaise à Dieu que toutes nos angoisses nous mènent finalement, mais après combien de temps encore, à la tranquillité d'esprit. J'ai toujours pensé que le métier de journaliste me plairait. Un ami de Jonathan, qui est à l'Exeter News, disait un jour que, dans cette profession, l'essentiel était la mémoire, que l'on devait être capable de reproduire exactement chaque mot dit par la personne que l'on interviewait, même si, par la suite, il fallait remanier quelque peu ses propos. Or, mon entretien avec le docteur Van Helsing n'avait certes rien de banal. Aussi vais-je essayer de le rapporter mot pour mot.